Voici 100% CH avec Richard Labbé.
Avant de saluer Richard Labbé, on veut saluer Gilbert Foisy qui nous écoute de lui dans son chalet dans le bois à Saint-Didas. À chaque semaine, on découvre un nouveau village. C'est incroyable. On voyage au Québec en vous écoutant, en vous ayant qui nous écoute. Je vais réussir à faire une phrase complète. Va aller saluer Richard, ça va aller mieux. Comment ça va, mon Richard Labbé?
Ça va très bien, Greg, toi-même.
Ça va bien. Es-tu déjà passé par Saint-Didas, toi?
Écoute, je te mentirais si je te disais que je sais même où pointer Saint-Didas sur une carte.
Je te dis, c'est pas des farces. On découvre des villages à chaque semaine ici. Des gens disent, hey, je t'écoute de telle place, de tel village, de Saint-je-sais-pas-quoi. Et tant mieux. Écoute, je gagne. On n'est jamais, tu sais, il n'est jamais trop tard pour apprendre des nouvelles choses.
Oui, absolument. Puis on vient tous deux d'apprendre Saint-Didas, l'existence de Saint-Didas. On ira se faire un 5 à 7 là-bas. À un moment donné, il doit y avoir certainement quelques endroits où on peut aller. Là.
Un bar du coin, hein?
Oui.
Des fois, c'est là que des fois que ce sont les meilleures soirées dans ces endroits-là, hein?
Exactement. C'est quand l'imprévu se mêle au bonheur, tout est possible.
Si l'imprévu se mêle au bonheur à Saint-Didas, écoute, faut le faire, pas à peu près. Richard, il y avait une visite de Shea Weber hier au Centre Bell. Là, il y a des gens qui critiquent son discours, mais Shea Weber a toujours été un homme de peu de mots, surtout devant les médias. Là, est-ce qu'il était dans la position la plus confortable pour lui de s'adresser à 21 000 personnes seul au centre de la glace, mais tout un accueil des partisans. C'était en donner des frissons hier, cet accueil-là. Mais toi, tu poses la question, est-ce qu'il en manque un Shea Weber comme ça dans le vestiaire présentement?
Ben écoute, c'est une question qui se pose depuis déjà très longtemps parce que c'est Greg, moi ça fait quoi là? Ça fait 25 ans là, que je suis cette équipe-là. Puis la question du leadership revient constamment. T'sais, souviens-toi, à un moment donné, il y avait une controverse avec Max Pacioretty. On avait attribué des propos à Michel Therrien selon quoi c'était le pire capitaine de l'histoire. Michel Therrien a dit j'ai jamais dit ça. Mais bref, je me souviens très bien que Max Pacioretty avait été très controversé comme capitaine parce qu'on disait justement qu'il y avait une absence de leadership. On avait dit la même chose un peu avant de Sakou Koivu, qui était un très bon joueur. Mais on se demandait, bon, c'est-tu le type de gars qui peut tirer vers le haut?
Qui peut unir un vestiaire? On se posait cette question-là avec Sakou Koivu. Est-ce que c'est un unificateur dans ce vestiaire-là?
Ouais. Et puis là, tu sais, c'était intéressant hier parce que Weber... Écoute, Greg n'a pas été si longtemps. Quand tu regardes dans le grand spectre des choses, Shea Weber n'a pas été un membre du Canadien de Montréal très longtemps. Mais son ascendant, l'instant où il a mis le pied dans le vestiaire, puis je pense que c'est pour ça qu'on a procédé à cette fameuse transaction, c'est qu'on estimait chez le Canadien de Montréal qu'il manquait probablement cet ingrédient-là du leadership, en plus, évidemment, d'avoir un défenseur de premier plan. Et lui, ben c'était un 2-pour-1. Il est arrivé ici, il est devenu un défenseur de premier plan, évidemment, mais en plus, il a tiré tout le monde vers le haut. Greg, t'as probablement entendu, là, il en a parlé lui-même récemment, à quelques reprises, mais la douleur avec laquelle il a composé pendant la série de 2021, je vais pas répéter ce qu'il a dit, parce que j'imagine tout le monde est au courant, là, mais en gros, là, Shea Weber, là, il avait de la misère. Moi, il m'a dit ça à un moment donné. Il avait de la misère à sortir du lit. T'sais, peux-tu t'imaginer? T'as de la misère à sortir du lit. Puis là, ben, le soir, il faut que tu mettes tes patins puis t'as une game à jouer. Je peux pas imaginer dans quel état il se trouvait pendant les séries de 2021. Mais tu sais, ce style de leadership-là, Greg, il est très difficile à avoir, à obtenir. Et là, ben, je te ramène à hier soir. T'sais, Nick Suzuki... moi, m'a fait penser beaucoup à Sakou Koivu, en ce sens que c'est un leader très, très silencieux. C'est un gars qui, je pense, peut devenir peut-être un marqueur de 80 points. D'ailleurs, il est à peu près sur ce rythme-là présentement. Il a 18 en 18. Et l'an passé, souviens-toi, 77 points. Donc, très similaire à Koivu. Mais est-ce que ce type de leadership-là, Greg, est suffisant? Tu sais, dans le club qu'on a présentement, puis ça me rappelle un peu les premières années de Koivu, où l'équipe n'est peut-être pas super compétitive à chaque soir, ce type de leadership-là qui est plus silencieux, qui est plus effacé, tu sais, Suzuki, là, c'est pas le gars non plus. T'sais, tu parles de Shea Weber, qui était un homme de peu de mots. Mais Greg, je te confirme que Suzuki, c'est pas non plus un gars qui va renverser la table de Gatorade dans le vestiaire, puis qui va péter des bâtons. Là. C'est pas ça pantoute. T'sais.
Mais... Non, je le vois comme étant un capitaine qui, tu sais, hier, au moment où on en avait besoin, sort un gros but. Ouais. Et a pas eu besoin de ses deux alliés, d'ailleurs, sur ce but-là. On reparlera de ses deux alliés à un autre moment, si tu veux bien. Mais pour moi, je le vois, je pense que Nick Suzuki est un unificateur, justement, dans ce vestiaire-là. Ramène les troupes ensemble. Ce n'est pas le type de gars, comme tu dis, qui va renverser la table de Gatorade, lancer une poubelle, quelque chose comme ça. Mais quand même, apporte un style de leadership. T'sais, rappelons-nous, Sako Koivu, dans cette fameuse, est-ce qu'on peut dire cette controverse-là ou cette compétition qu'il avait avec Mike Ribeiro, voulait pas trop que Mike Ribeiro devienne le premier centre de cette équipe-là, par exemple. Je suis pas mal certain que si Suzuki, c'est complètement hypothétique ce que j'avance, mais ça sert à notre discussion. Mettons là, qu'on repêche James Higgins cette année. Là. Pas mal sûr que lui, il va dire, écoute, James Higgins, m'en aller sur le centre de deuxième trio, pas de problème. James Higgins, je veux gagner, c'est ça que je veux.
Probablement, tu sais, je pense pas qu'il serait du genre à faire des vagues puis à vouloir une place peut-être qui lui revient pas. Mais tu sais, je pense qu'à tout le moins, c'est un gars. Tu sais, l'affaire avec Suzuki, c'est qu'il faut pas que le Canadien se soit trompé avec lui. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu identifies clairement que c'est ton capitaine, ton leader, et puis là pour longtemps, là, parce que tu l'as mis sous contrat pour un contrat de longue durée. Ben, tu peux pas te tromper. T'sais, il faut absolument que ce gars-là devienne le leader qu'on espère chez le Canadien, mais aussi le marqueur qu'on espère. Et puis, si ça arrive après ça, ben, tu dois construire autour de lui. Là, maintenant, ben, écoute, c'est dans les moments comme ceux-là, tu as parlé de sa performance d'hier, c'est dans les moments comme ceux-là que lui doit, je te dirais, rayonner et faire, comment je te dirais bien ça, t'sais, rayonner, mais aussi transmettre un petit peu son leadership positif, parce que c'est un gars qui est quand même très optimiste, Suzuki, à la base. Et lui, doit transmettre ça dans un cadre où tu viens de parler du premier choix au prochain repêchage. Là, t'sais. Lui doit transmettre ça dans un cadre où le club, fort probablement, Greg, va encore se ramasser avec des simulations de bouliers. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Mais tu sais, dans un cadre où tu peux pas... Faut pas que la défaite s'installe à titre de culture. T'sais, faut pas que ça devienne culturel que de perdre des matchs et que ce soit complaisant.
Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais tu sais, pour moi, chacun son... T'sais, Weber était ce genre-là. Là, on l'a eu l'anecdote là, cette semaine, là, quand il s'est levé sur le banc après avoir bloqué trois lancers, puis il a dit aux attaquants, « Hey, les gars, êtes-vous correct? Vous voulez une petite gorgée d'eau? Ça se passe bien? » Nick Suzuki, hier... ça allait pas bien que Slavkovski en deuxième période. On voyait que Slavkovski boudait, était pas content, était à veille justement de péter son bâton sur le bord de la bande, et Suzuki est allé lui parler. C'est lui qui s'est levé, qui est allé le voir. Et je pense qu'il y a un style de leadership qui pourrait être, et ça fait trois semaines que je casse les oreilles de tout le monde avec ça, pourrait être complémenté justement par un gars qui a la personnalité de Shea Weber. T'sais, on peut ajouter Corey Perry, par exemple, qui était avec le Canadien. Je nomme ses noms. C'était avec toi, je pense, j'en parlais la semaine passée. Il y avait un Doug Gilmour à une certaine époque qui n'était pas capitaine, mais qui servait à ça. On peut en trouver. Trouvez-en dans la Ligue nationale des noms comme ça. Est-ce que ça pourrait être un ajout de choix l'année prochaine? Probablement.
Oui, écoute, je suis 100% d'accord avec toi. La seule affaire, c'est que c'est clairement pas quelque chose, ça, qui va arriver maintenant. Je pense que la direction du Canadien de Montréal, il y a tellement de rumeurs, Greg, puis à un moment donné, on se perd, là, mais je serais très, très surpris. J'écoute un petit peu, on voit passer Kent Hughes de temps en temps sur la galerie de presse, puis tout ça, puis il me donne pas l'impression d'un gars qui va prendre le téléphone le matin, demain matin, peu importe, mardi, pour dire, OK, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de transiger. Je pense pas que ça va arriver. Mais à l'été prochain, par contre, Greg, en prenant pour acquis que le Canadien de Montréal, évidemment, fera pas les séries, il y aura peut-être un choix repêchage intéressant, peut-être le premier, peut-être le deuxième, mais ça risque d'être un haut choix, encore une fois.
Ouais.
Ça serait probablement, je pense, tout indiqué Et c'est une excellente suggestion que tu apportes de vérifier un petit peu qui est disponible cet été. Peut-être sur le marché de l'autonomie, mais peut-être aussi via une transaction. Parce qu'effectivement, tu sais, je regarde aller hier Sean Monahan. Tu sais, je te dis pas que le Canadien de Montréal serait un club des séries avec Sean Monahan dans la formation. C'est pas ça que je te dis. Mais ce type de joueur-là, qui a un certain ascendant, qui est un vétéran, qui a de l'expérience. Tu sais, chez le Canadien de Montréal, ce gars-là n'existe pas. Tu sais, puis je le dis avec tout respect là, aux plus vieux, là, les Matheson, les Savard, mais ce type de joueur-là, puis encore moins chez Weber, évidemment, ça court pas les rues là, des chez Weber, mais tu sais, ce type de joueur-là, je pense qu'éventuellement, ça va en prendre un chez le Canadien de Montréal. Exact.
Et peut-être que, je sais pas, Marc Bergevin le faisait trop en allant chercher plusieurs joueurs là, en fin de carrière ou de quatrième trio, quoi que ce soit, mais tu sais, d'en ajouter un bon. Et là, tu sais, on a profité de la venue des Blue Jackets de Columbus hier pour relancer le fait. D'ailleurs, on va vous présenter ça à 11h30, quelques extraits d'une courte entrevue que notre collègue Vincent Demus a fait avec Mathieu Olivier. Mathieu Olivier est agent libre à la fin de la saison. Est-ce que ça pourrait être ce type d'ajout-là dans ce vestiaire-là? Tu sais, Renaud Lavoie a fait toute une entrevue hier avec Mathieu Olivier également. Donc, tu sais, ça pourrait être ce genre de vétéran-là qui vient aider l'équipe. Tu sais, je sais pas, je lance un nom comme ça. Je mets pas Mathieu Olivier chez Weber dans la même phrase, mais en termes de leadership, je pense qu'il fait un très bon travail présentement avec les Blue Jackets de Columbus. Avant de se laisser, Richard, t'es convaincu de la tenue du deuxième trio présentement?
Bien, convaincu. Écoute, je trouve que ce qu'on a vu hier, on doit le revoir. La fois le prochain match, puis l'autre d'après. Parce que c'est quelque chose, moi, je pense. On a parlé beaucoup des. Bon, on vient de parler du leadership, puis on pourrait parler de plein d'autres affaires, mais une chose qui a manqué aux Canadiens depuis le début de l'année, c'est l'apport d'un deuxième trio qui est capable de provoquer des choses offensivement. Dans cette ligue-là, Greg, tu n'iras pas bien loin avec seulement un trio. C'est impossible. Puis les très, très bons clubs ont souvent trois, puis des fois quatre trios qui sont capables de fonctionner offensivement. On n'est pas là chez le Canadien de Montréal, mais si on est capable, enfin, de trouver quelque chose de potable avec le deuxième trio. Tu sais, moi, tu sais, Greg, on a parlé beaucoup là, cet été de Kirby Dach, puis de Patrick Laine, puis avec raison. Mais à mon avis, le joueur important cette année chez le Canadien, c'était Alex Newhook. Moi, je pense que ce gars-là doit absolument prendre sa place, doit devenir le joueur qui est censé devenir. C'est un choix de premier tour, là, oubliez pas ça. Si ce gars-là est capable de prendre sa place, pour moi, ça va faire une grosse différence sur le deuxième trio du Canadien de Montréal. Et puis, tu sais, ça prend ça. Tu peux pas gagner dans cette ligue-là sans un deuxième trio. Hier, on l'a vu. Tu sais, c'est sûr que Jake Evans, là, Greg, on s'entend tous, là, dans une bonne équipe, c'est pas un deuxième joueur de centre. Mais depuis le début de la saison, c'est lui le deuxième meilleur centre du Canadien de Montréal. Et puis, à quelque part, je suis un petit peu... je pense que les partisans doivent être contents de voir ça. C'est-à-dire que Martin Saint-Louis commence tranquillement... pas trop vite, tranquillement, à y aller au mérite. Tu sais, puis ouais. On sait tous que Jake Evans n'est pas un deuxième centre, là,
non,
Greg.
Suite au match d'hier, quand tu vois Jake Evans qui commence à s'installer comme solide deuxième centre, là, tu sais, comme solide deuxième centre, mais je veux dire, moins temporaire que ce qu'on pensait, et quand tu vois de la façon qu'il a puni Slavkovski, si tu sais, je peux dire ça entre guillemets, si je suis Kirby Dach ce matin, mettons que je patine en pratique, là.
Écoute, puis c'est le temps de ça. Là, on est là-dedans. T'sais, on n'est plus là. J'ai senti enfin, puis je dis enfin parce que, tu sais, éventuellement, les joueurs doivent avoir des conséquences. Mais il y a deux semaines, à peu près, j'ai senti enfin chez Martin Saint-Louis un certain degré d'impatience. Puis, ouais. À un moment donné, ça doit arriver à ça, Greg. Tu peux pas, dans cette ligue-là, coacher avec des petits gants blancs. Puis traiter les gars aux petits oignons, parce que sinon, tu te transformes en country club. Et chez les Sabres de Buffalo, on a eu ça, je sais pas si c'est encore le cas, mais pendant des années, là, tu rentrais dans le vestiaire à Buffalo, puis les gars riaient, puis les gars avaient du fun, puis tu sais, le club était 30e au classement général. Tu peux pas avoir ça qui s'installe, et il faut que Martin Saint-Louis commence à coacher en conséquence. On le voit tranquillement, tu sais, je pense pas que c'est son style, mais on voit tranquillement que Martin Saint-Louis commence à coacher avec des conséquences, puis ça, ben, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les partisans.
Merci Richard de ces très belles réflexions et déjà hâte de te parler dimanche prochain, mon ami.
Et c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Salut bien!
Tout le plaisir est pour nous. Salut mon chum. Dans deux minutes, on poursuit cette discussion-là, ces analyses suite au match d'hier. Patrick Friolet a fait des recherches sur de l'apport des statistiques et ça va être très intéressant. J'ai hâte, je vous en dis pas plus, mais restez là, il s'amène dans deux minutes.